L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5500 francs par jour seulement.
Et ce matin, nous sommes donc avec le directeur de la DSCGR, le contrôleur général Frédéric Marquilecchia. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Depuis le début du mois, les feux de brousse se sont multipliés en Nouvelle-Calédonie. C'est peut-être ce qu'on peut dire. On peut commencer par un point de situation. Sur combien de feux vous avez été engagé au niveau de la DSCGR ?
Alors, nous entrons naturellement en saison feux de brousse. Celle-ci, je le rappelle, commence très tôt dans le nord. À partir de juillet-août, on commence à voir les premiers feux. Et puis, graduellement, cette saison se déplace vers le sud. Et généralement, on commence à être touché ici en octobre. Cette année, ça a commencé assez fort. Les feux sont nombreux. Le potentiel végétal accumulé depuis 2020 a fini par, malheureusement, être la première victime. La sécheresse s'installe, moins d'eau, du beau temps, quelques alizés. Donc tous les ingrédients sont là pour que les feux se produisent. Et l'ingrédient majeur, c'est la main de l'homme, puisque la plupart des feux sont d'origine humaine. Enfin, quasiment tous les feux sont d'origine humaine, volontaires ou non. Et malheureusement, on a constaté que certains départs de feu posent question, notamment lorsqu'on a un départ de feu tous les 10 mètres au bord d'une route provinciale. Moi, j'ai du mal à croire que c'est la foudre.
Et ça, c'est quelque chose qu'on connaissait avant, déjà, ces actes intentionnels. C'est pas nouveau, finalement, les incendies criminels en Nouvelle-Calédonie, ou est-ce que c'est spécifique à cette saison des feux qu'on pourrait relier à ce qu'on connaît depuis le mois de mai ?
Non, c'est pas la saison des feux. Bon, il y a toujours eu des mises à feu, donc c'est lié à un aspect culturel, à l'agriculture aussi. Les départs malveillants, on en a toujours eu. On a toujours eu des pyromanes qui ont été arrêtés, qui ont été identifiés. Mais bon, ça recommence. Donc on a des feux qui sont véritablement volontaire. L'enquête permettra de le préciser. Finalement, le contexte pourrait faire croire que c'est lié. Je ne sais pas. On ne pourra pas bien le dire. Mais effectivement, la multiplication de ces feux dans des conditions qui sont déjà difficiles pourrait mettre à mal l'ensemble des services d'incendie et de secours.
Donc là, vous êtes intervenu sur des petit feu, si je puis dire. On n'a pas eu de feu conséquent, majeur, comme on a pu connaître les autres années, pour l'instant en tout cas.
Alors, pas de feu catastrophique, même si dans le nord, des habitations ont été touchées. Donc, on commence déjà à toucher à l'humain. Donc, ce sont les biens des personnes qui sont touchées. Donc, c'est déjà grave, même si le feu n'est pas très étendu. Ma crainte, c'est qu'on soit débordé à un moment donné, puisque je rappelle que la mission de la sécurité civile, c'est d'appuyer les services de secours communaux. Ceux-ci sont en difficulté. Ils l'étaient déjà auparavant. Ils le sont davantage avec la crise. Problème de moyens humains, problème de moyens matériels. Problème de formation, et la sécurité civile vient de plus en plus appuyer, voire se substituer à certains services d'incendie. Et malheureusement, nos moyens à nous, les moyens du gouvernement, ne sont pas extensibles. Donc ça risque de nous échapper à un moment donné, et là, on passera en mode catastrophique.
Et pourtant, il y a des renforts sur le territoire. On parle de renforts de police, de gendarmerie, mais il y a aussi eu des renforts de pompiers, notamment de sécurité civile aussi. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur ce dispositif ?
Alors, ces renforts ne sont pas dévolus à la lutte contre les incendies de brousse, comme ça a été le cas en janvier, par exemple, où la solidarité nationale a fait qu'on a reçu le soutien d'une section des formisques. Ces effectifs sont sur le territoire. Ces effectifs seront probablement sollicités. Je ferai une proposition au président. Mais pour l'instant, ils ne sont pas là pour ça. Donc, le bon sens ferait qu'effectivement il pourrait nous être mis à disposition, mais tout ceci fait partie d'un processus, une demande de concours, et ça ne se fait pas en un claquement de doigts.
Sachant que sur le territoire, parmi les renforts, il y a des pompiers spécialisés aussi dans les feux urbains surtout, et pas forcément ces grands feux de brousse comme on peut...
Essentiellement, les renforts qui ont été dépêchés pour la crise elle-même sont essentiellement des renforts qui travaillent sur les feux urbains. Donc il y a eu des gens de la brigade des pompiers de Paris, des gens des services d'incendie départementaux et des unités militaires. Et donc ces profils sont ciblés pour le feu urbain, donc feu d'habitation, feu d'entreprise. Parmi eux, certains possèdent des qualifications qui leur permettent d'intervenir sur les feux de brousse, et c'est ce public-là que je vise pour une éventuelle demande de renfort.
Vous parliez des moyens de la DSCGR en termes de matériel. Vous avez ce qu'il faut aujourd'hui pour lutter contre ces feux, et en termes humains aussi ?
Alors le matériel, j'ai toujours dit, on a beaucoup de matériel, on a un peu moins de personnel. Ce qu'il faut recontextualiser, c'est que depuis le mois de mai, les effectifs de la DSCGR sont mis à rude épreuve, autant que nos camarades communaux et intercommunaux. Et cette fatigue commence à se faire sentir sur les effectifs qui eux-mêmes ne sont pas extensibles. Donc vos pompiers de la sécurité civile comme ceux des communes sont aujourd'hui fatigués, et c'est cette fatigue qui me fait craindre l'accident humain et l'accident environnemental si un feu venait à nous échapper et parcourir des centaines d'hectares.
On est au tout début de la saison des feux, elle dure en général assez longtemps. Partir déjà fatigué, vous êtes pessimiste pour la suite ?
Je ne suis pas pessimiste, mais je ne suis pas très optimiste. Je connais le courage des pompiers de Nouvelle-Calédonie, je connais leur résilience, mais tout a une limite. Et celle-ci pourrait être atteinte rapidement, surtout si la population en général et ceux qui allument les feux en particulier ne prennent pas conscience du risque qu'ils font peser sur la population, sur le pays et sur son environnement.
Oui, vous parliez justement de l'environnement. On a aussi eu des maisons touchées, vous le disiez. On a une estimation des dégâts depuis le début de cette saison des feux, si on peut s'exprimer encore ainsi.
On a, enfin, j'ai les chiffres de 2 maisons touchées sur le secteur de Ouégoua. Alors, est-ce que c'était des maisons habituelles? Est-ce que c'était la piolle du week-end? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, les biens commencent à être touchés. C'est-à-dire que les feux sont suffisamment importants pour détruire. Et les moyens sont plus assez suffisants pour protéger ces mêmes biens. Donc, il y a un moment donné, il y a un signal d'alerte qu'il faut absolument entendre.
Alors, par exemple, aujourd'hui, si on regarde la carte prévifeu, on a toujours la Nouvelle-Calédonie qui est quasiment tout en orange, c'est ça? Donc, un risque très élevé encore aujourd'hui?
C'est ça, un risque élevé. Alors, lorsque la carte est orange ou rouge, ce n'est pas le risque d'incendie qui est élevé, c'est le risque que ces incendies prennent une dimension catastrophique. Mmh. C'est-à-dire que la carte témoigne d'un risque élevé en termes de sécheresse, de quantité de combustible, de vent, et donc du risque qu'on prend à allumer un feu. C'est pas parce que la carte est rouge que les feux s'allument. Les feux, ils s'allument de la main de l'homme.
Toujours.
Toujours.
Et ça, c'est quelque chose de partout dans le monde, finalement. C'est pas...
Et oui, c'est le caractère volontaire ou non qui fait la différence.
Et justement, sur les accidents, si on peut revenir aussi là-dessus, à quoi il faut être vigilant quand aujourd'hui on va en brousse ou qu'on est dans un espace avec de la végétation? Qu'est-ce qu'il faut surtout pas faire? Quels sont les réflexes à avoir?
Le réflexe de base, c'est bon. Alors on a le mégot par la fenêtre, oui, qui fait partie des potentiels moyens d'allumage. Alors, c'est pas le plus efficace. Hein. Il faut éviter surtout dans le quotidien de brûler son tas de brousse, de faire le barbecue un peu trop près des végétaux, et puis surtout de prendre en considération ce que savent très bien faire les gens en Nouvelle-Calédonie, c'est prendre les considérations environnementales. Il y a du vent, j'allume pas. C'est trop sec, j'allume pas. Ou je prends des précautions pour le faire. Voilà. Il y a des moments où il faut pas allumer. C'est tout. Mais ça peut attendre demain, le tas de brousse. Voilà. Et c'est pas parce qu'on veut faire une chose qu'on peut forcément le faire. C'est comme dire, je veux voyager, des fois on peut pas le faire. Ben, le feu, on peut pas le faire tout le temps. Donc, c'est simplement des considérations de bon sens et de prendre des précautions qui permettent à un petit feu de ne pas s'éteindre.
On sait qu'un certain nombre d'acteurs, notamment les associations environnementales, avaient mis en place des sortes de sentinelles qui allaient dans les tribus expliquer un petit peu à droite à gauche ce qu'il fallait faire, pas faire. Est-ce que c'est assez récent comme dispositif? Il y avait eu notamment du côté de la coulée, je crois, quelque chose d'expérimental. Est-ce que ce genre de choses de prévention auprès de la population, ça fonctionne et est-ce que ça porte déjà ses fruits, par exemple?
Ça fonctionne. Il y a tout un tas d'initiatives qui sont faites pour sensibiliser la population, notamment les plus jeunes, aux risques environnementaux. Alors, on le fait aussi au sein des tribus. On a essayé de mettre en place des réserves tribales de sécurité civile, justement pour porter ces messages de prévention, pour avoir de premiers gestes de secours. Ce que je crains en ce moment, c'est que le tissu associatif, il a un petit peu souffert de la crise et qu'il est en train un peu de se déliter. Alors je salue les efforts des associations, quelles qu'elles soient, parce que c'est souvent pallier un manque d'un service public, ou au moins le consolider. Aujourd'hui, on va avoir du mal à trouver des gens qui vont aller porter cette parole, et j'encourage pourtant à continuer de le faire.
Et c'est difficile aujourd'hui de ne pas pouvoir s'appuyer sur le tissu associatif ou même simplement les gens qui sont de l'endroit pour pouvoir intervenir?
On ne peut pas ne pas s'appuyer sur la population. Je rappelle que les services d'incendie et vos pompiers sont le reflet de la population, donc on ne peut pas travailler seul. Et au contraire, c'est main dans la main, en prenant en compte des aspects culturels, la connaissance du terrain simplement. On a besoin des gens, on a besoin de ce tissu associatif pour avoir une action efficace.
Et vous le disiez, les pompiers communaux aujourd'hui, il y a des grandes difficultés au niveau des pompiers communaux. Ça aussi, c'est un risque pour les incendies. Oui, le fait qu'ils connaissent le terrain, qu'ils sont là tous les jours.
Si on n'a pas cette ressource considérable d'avoir des gens du terrain qui connaissent les chemins, le vent, les configurations, qui nous permettent d'utiliser au mieux les petits moyens qu'on a, si on n'a pas cette ressource, on va travailler beaucoup plus difficilement et avec une efficacité moindre.
Revenons un instant, Frédéric Marquis-Deschas, sur le contexte. On sait que les pompiers sont intervenus dans un contexte d'hostilité grandissant depuis le mois de mai, avec des caillassages, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez aussi quand vous intervenez aujourd'hui en brousse?
Il est évident qu'aujourd'hui, on a toujours dans un petit coin de la tête cette appréhension d'être pris à partie ou simplement gêné dans l'exécution des missions. C'est pas pour autant qu'il faut pas y aller. Et puis, je reste convaincu que la Calédonie est une terre de dialogue et que si on a pris le temps de créer du lien avant, qu'au moment des faits, on prend le temps de s'arrêter, de parler, de parlementer peut-être, on finit par passer. Donc, j'ai pas connaissance de cas où on a absolument été empêcher d'avancer. Ça a été plus long parce qu'il a fallu négocier, Mais il y a quand même une part d'intelligence, une part de raisonnement, de bon sens qui fait qu'on finit par nous laisser faire l'action. C'est retardé, c'est compliqué, c'est dur psychologiquement, mais ça passe. Donc gardons confiance.
On circule beaucoup mieux sur la Grande Terre depuis quelques semaines, en tout cas sur la côte ouest. Vous avez eu cas aussi de ces choses-là, de ralentissement dans vos interventions ces dernières semaines, ou alors c'était plutôt dans la période où il y avait les émeutes les plus importantes?
Bon, c'était surtout au début de la crise. Mmh. Aujourd'hui, il y a toujours des petits points de blocage, notamment dans le nord, mais jusqu'à maintenant, les secours sont passés. Donc il y a vraiment ce bon sens qui s'exprime, et puis une vraie solidarité, je pense.
Merci beaucoup, Frédéric Marquis-Létchat, d'avoir été avec nous.